suis toujours là. Tu peux compter sur moi. Je serai encore là.
Bonsoir à vous, auditeurs de Principe Actif, ravi de vous retrouver. On est ensemble pour une heure et demie de musique, tous azimuts, avec ce soir un invité que je vais vous présenter dans deux minutes. Juste pour introduire l'émission, on va commencer avec un premier titre, un titre du groupe Algo, qui était en concert vendredi dernier à Paris sur une péniche et qui a présenté son petit EP, dont je vais vous faire écouter le premier titre.
Friendly story ends.
C'était Algo, donc, avec ce premier morceau qui est à l'image du EP entier, entre Divine Comedy et des choses qu'on a aimées dans les années 90. Le morceau s'appelait Between Her Arms. Et le petit EP que vous allez pouvoir vous procurer, puisqu'il est sorti en fin d'année. Vous allez pouvoir vous le procurer. Il s'appelle The Misunderstanding. Voilà, Algo sur Principe Actif. Donc j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui, ce soir, un passionné de musique, quelqu'un qui est depuis des années en fait profiter les auditeurs de Principe Actif. Il fait profiter de sa passion pour toutes sortes de musique. Il s'appelle Pierre Lemarchand. Si certains auditeurs le reconnaîtront peut-être, ce sera grâce à sa voix qu'on peut entendre tous les vendredis de l'année à 20h dans l'émission Eldorado. Et on entend donc quelques notes de Neil Young, une voix grave et posée, articulant méticuleusement des mots choisis, un propos documenté, une volonté de rendre hommage aux textes critiques. Voilà à quoi tient sans doute le plaisir qu'on a de retrouver semaine après semaine son émission. Une émission diffusée sur de nombreuses radios, il nous en parlera. Et donc on va peut-être découvrir cette année, dans cette émission, d'où vient cet amour pour la musique, ou en tout cas profiter de ce moment pour partager, comme il le fait habituellement avec nous chaque vendredi. Salut Pierre.
Salut. Merci donc, beaucoup de l'invitation, ça me fait très plaisir.
Écoute, c'est un plaisir. Comme je l'ai dit, on va profiter de ta sélection que tu as choisie de manière un petit peu tu me disais pour coller un peu à l'image de l'émission, mais bon, en même temps pour coller aussi à ce que tu fais.
Ouais, coller à ce que je suis. Enfin voilà, je me suis dit voilà, des morceaux que j'aime bien tout simplement.
Ouais.
Puis avec aussi des choses à dire autour de ces morceaux. Et mais voilà, on va les écouter puis on va en discuter tranquillement.
Alors, on va commencer avec un premier titre de quelqu'un qui
de Johnny Sanders.
En fait,
dans la dernière émission d'Eldorado, elle commence avec Johnny Sanders. Je trouvais que c'était bien de repartir avec lui. Moi, c'est un personnage que j'aime énormément. C'est un musicien américain, un chanteur. On va en discuter peut-être un petit peu après de qui il était. Mais voilà, il fait partie de ces perdants magnifiques, de ces gars qui ont écrit l'histoire du rock à la marge. Et moi, j'ai beaucoup d'affection pour ces marginaux de la musique populaire, quelle qu'elle soit. Johnny Sanders, c'était ça, un type qui a un peu tout cramé par les deux bouts. Mais il reste de magnifiques chansons. On oublie ça. On parle toujours de sa toxicomanie épouvantable. On parle toujours de la méticulosité avec laquelle il a ruiné sa carrière. Mais ce qu'on oublie, et c'est l'essentiel finalement, c'est qu'il avait une belle voix, qu'il jouait bien de la guitare et qu'il écrivait des très belles chansons. Doesn't pay to try. All the smart boys know why. It doesn't mean I didn't try. I just never know why. And even though they don't show,
Johnny Thunders dans Le Laboratoire, tiré d'un album qui s'appelle So Alone. Est-ce que c'est son premier album solo ?
Ouais, c'est son premier album solo. En fait, avant, il s'est fait connaître, lui, à New York, pour avoir fondé un groupe assez emblématique qui s'appelait les New York Dolls. Au tout début des années 70, il ne se passait plus grand-chose à New York depuis que le Velvet avait plié bagage.
Oui, c'est ce que tu disais dans la dernière Eldorado.
Ouais, il ne se passait pas grand-chose, en fait. Il y a un mec qui raconte très bien ça dans un petit bouquin qui s'appelle Raw Power, qui raconte un peu l'histoire du punk américain. Parce que quand on pense punk, finalement, on pense toujours aux Anglais avec leurs crêtes, les Sex Pistols et compagnie, enfin le folklore, quoi.
Ouais.
Mais ça a été d'abord la première dénomination, je crois que c'était ce qu'on a compilé ensuite, ce que Lenny Kaye, le guitariste de Patti Smith, avait compilé en 72 sous le nom de Nuggets, donc tous ces groupes de rock dans les années 60 américains qui jouaient dans leur garage, et ben eux s'appelaient des punks, et puis après il y a eu ce punk américain qui est né avec les New York Dolls, donc en 72 je crois le premier album des Dolls, avec Johnny Thunders, et puis après toute la mouvance autour du club CBGB's qui avait investi les Dolls, et ils ont ouvert la voie à Patti Smith, à Television, à toute cette scène, moi, que j'adore. Mmh. Et puis après, Thunders, ils font les Heartbreakers.
Électrique, mais un petit peu décharné, un petit peu...
Oui, absolument. Et puis, arty. Mmh. Voilà. C'est pas parce qu'on fait de la musique fort et vite qu'on peut oublier aussi de dire des trucs intéressants, mais d'être un peu élégant. Voilà. Moi, c'est ça que j'aime beaucoup. Et puis Thunders, c'est l'élégance, quoi. Mmh. Donc, voilà.
Donc,
voilà.
Tu l'as enchaîné. Tu voulais l'enchaîner.
Ouais.
Tu as choisi de l'enchaîner avec Nikki Sedden. Mmh. Mmh. On l'écoute.
There's a bright shining light across the crystals of her eyes as she looks at me for a while, and the dew shows through her smile, and she says she'll stay a while, but tonight she says I belong to you. Oh, and if you we'll forget about the others, forget about tomorrow and the fears that lie ahead, and the dew shows through her smile, and she says she'll stay a while, but tonight she says I belong to you, I belong to you. Tonight she says, I belong to you. And all the tears may come, hold me back a while, but I'll still recall your smile. Just at all, for I can still see the way she looked into my eyes. There's a bright shining light across the crystals of her eyes as she looks at me for a while, and the dew shows says she'll stay a while, but tonight she says, I belong to you. I belong to you. Oh, I belong to you. Oh, tonight she says, I belong to you. I belong to you. With all you say and do, oh, tonight she says, I belong to you. I belong to you.
On était en train d'évoquer donc Nikki Sedden et en fait surtout son frère, que moi personnellement j'ai plus suivi de près, disais-je. Mais bon, dis-nous quand même un mot de Nikki Sedden.
Alors Nikki Sedden, perdant magnifique dans le sens où son nom est assez peu resté dans les mémoires, sauf pour les grands amoureux de la musique, mais c'est pas quelqu'un qui est très très connu, Nikki Sedden. Et c'est comme Sanders, hein, il a été décisif à un moment donné. Alors lui, il est anglais, hein, il n'est pas américain.
Ouais.
Il est anglais, il a fondé à la fin des années 70 un groupe qui s'appelle Swell Maps, avec son frère, donc Epic Soundtracks. Et puis après, tous les deux, donc Arrête Swell Maps, qui était un groupe assez expérimental, très aventureux, qui était dans la mouvance qui est née des cendres du punk, hein, donc vraiment, ouais. Voilà, des têtes chercheuses. Donc Epic,
c'était un peu énervé, Swell Maps.
C'était très énervé, ouais. Très foutraque. Et donc Epic part d'un côté et Nikki part de l'autre. Epic continue de creuser ce chemin un peu expérimental, ce chemin de chercheur continuel. Et lui, Nikki, déclare son amour aux chansons assez classiques. Peut-être, il a fondé un groupe qui s'appelait les Jacobites, qui était une espèce de groupe, une déclaration d'amour aux quatre accords que Neil Young jouait avec le Crazy Horse. Voilà, une guitare bien saturée, quatre accords très jouissifs et puis des belles chansons, voilà, avec des refrains qui emmènent tout. C'était ça, Sedden aussi, cette capacité d'aller là où on ne l'attendait pas et puis en même temps de chanter comme au bon vieux temps du rock'n'roll. Et donc cette chanson-ci, qui s'appelle I Belong to You, moi qui me bouleverse à chaque fois que je l'entends. Elle a été produite par Peter Buck de R.E.M. Donc c'était au tout début des années 90. C'est peut-être le fait d'armes le plus marquant, le succès, si on peut appeler ça ainsi, le succès de Nikki Sedden, ce très beau disque qui s'appelle Jewel Thief, donc qui a été produit par Peter Buck. C'est des gars qui savaient s'entourer, Sanders aussi, hein, parce que sur So Alone, son premier album solo, il y a quand même deux mecs des Sex Pistols qui sont là. Il y a quand même le mec de Thin Lizzy qui est là. Il y a le mec des Only Ones, le mec des Small Faces. Il y a du monde autour de Sunder. Ce n'est pas simplement ce camé infréquentable qu'on dit. Il y a aussi ce grand musicien qui était très recherché par ses pairs. Et c'est pareil pour Sedden.
Pareil pour son frère aussi, Epic Soundtracks.
Absolument.
Qui a été bien entouré aussi sur certains disques.
Ouais, on parlait de Wyatt, mais il y a pas mal de gens qui ont cherché aussi la compagnie de Epic Soundtracks. Ouais.
Très bien. Eh bien, écoute, ça commence plutôt new-yorkais, plutôt américain, non? Ils sont de New York, ces gens-là?
Sedden est britannique.
Ah bon, d'accord. Sedden est britannique.
Mais en fait, on ne sait pas trop, parce qu'ils comme Sanders, ils empruntent des pseudonymes. Hein, c'est des gars aussi, voilà. Il y a une espèce de mise en scène d'eux-mêmes à travers leur musique. Johnny, lui, il est vraiment new-yorkais, je crois, hein, pur jus. Et Nikki Sedden et son frère Epic Soundtracks, c'était des Anglais. Je ne sais plus d'où ils viennent, mais ils ne viennent pas de Londres. Ils venaient de la campagne, je crois.
Feeling
On est dans le un peu plus sautillant là avec alors comment tu prononces excuse-moi comment tu prononces ce groupe 22
Piste Pirco 22 Piste Pirco. J'ai longtemps été sans savoir le dire correctement et là je suis même pas sûr que ce soit vraiment ça, mais ils sont toujours en activité. Mais on a écouté un morceau un petit peu vieux, il doit dater de 1992 ce titre là
ouais.
Parce que quand tu m'as invité à venir, forcément, je me suis un peu creusé le citron en me disant qu'est-ce que je vais pouvoir ramener comme disque. Et puis il y avait naturellement quand même, c'est ce qui me semble important quand même de partager, il y avait cette volonté de rendre hommage à ce bon vieux Bernard Lenoir quand même et son émission de France Inter de 21h à 22h du lundi au vendredi, parce que je pense que ça a marqué des tas de gens.
Ah bah
ça,
oui.
ça a marqué des alors il y a, je sais pas, c'est Brian Eno qui disait, je crois, il y a pas beaucoup de gens qui ont acheté l'album du Velvet, mais ils ont tous fondé un groupe. Mais je me dis peut-être que on était très nombreux à écouter Le Noir, mais je pense qu'il y en a un paquet qui font de la radio aujourd'hui, quoi.
Je
pense.
C'est pas autant que les auditeurs qui l'avaient, mais ouais, effectivement.
Il y a cet amour de la musique et de la transmission qui est pour moi très importante. Enfin voilà, Le Noir, il m'a fait prendre conscience, je crois. Qu'il fallait aller fouiller, qu'il fallait aller chercher, ouais. Que encore une fois, c'était à la marche que les plus belles pages de la musique pouvaient s'écrire, qu'il fallait à tout prix rester curieux, ne jamais se satisfaire de ce qui se déversait par les gros robinets,
ouais.
Des médias dominants. Enfin, tout ça, moi, je le pensais confusément à l'époque. Hein. C'était pas comme ça que je le formalisais, mais Le Noir, c'est ça. Et puis Le Noir, c'est des souvenirs de jeunesse. Enfin, moi, je suis assez nostalgique. Et puis c'est j'ai 15, j'ai 16, j'ai 17 ans. Je suis au lycée, je sais pas si tu viens de la campagne, moi je venais de la campagne et le car il passait à 7h du mat devant chez moi,
ouais.
Donc j'avais intérêt à me coucher tôt, donc à 9h j'étais au lit avec Bernard Lenoir, mon petit carnet, et j'écrivais dans un anglais approximatif, tu vois, les groupes qu'il passait et qui me touchaient, et après c'était la quête au trésor, parce
et
qu'il
voilà.
fallait aller
c'est
à la ville,
ouais.
hein, putain, au Havre ou à Rouen, en mobylette, et à l'arrière d'une mobylette en ce qui me concerne, pour aller trouver... Le Graal, et voilà, moi c'est des souvenirs très très forts, et Bernard Lenoir c'est quelqu'un d'important, et ce morceau, Birdie de 22 Piste Pirco, reste je pense une des plus grandes claques que j'ai jamais eues en écoutant et en découvrant un titre de musique à la radio. Mmh. Quoi.
C'est drôle, je connais à peine ce groupe en fait, je connais deux noms, et donc c'est bien que tu choisisses ça pour évoquer Bernard Lenoir, et effectivement, c'est vrai que on mesure peut-être moins aujourd'hui, mais à l'époque où il n'y avait pas Internet, on avait besoin de guides et de gens qui nous,
et
comme
ouais.
tu dis, nous amenaient vers des pistes discographiques. Et quand on arrivait dans un magasin de disques, c'était grâce à Le Noir qu'on avait des repères. Quoi.
Et
c'était indispensable ce qu'il a fait pour cette génération qui était la nôtre et peut-être... même encore quelques années après qu'on ait quitté le lycée. Enfin, il a quand même duré un sacré bout de temps.
Oui, moi j'ai continué de l'écouter, peut-être moins fidèlement, parce que c'était vraiment tous les soirs. Hein, quand 16, 17, 18 ans, c'était tous les soirs. Et après, de manière extrêmement fidèle et toujours très respectueuse et très attendrie. Quoi. Et,
ouais.
Et aussi la manière dont il a quitté la radio, Le Noir, avec pareil, cette espèce de boule au ventre.
C'était
particulier son départ aussi parce qu'il n'y avait rien de raisonnable dans son rapport à la musique, je pense, et que son départ ne pouvait pas l'être de toute façon.
Donc alors, tu as choisi un autre titre emblématique de cette musique indé américaine, Silver Jews,
ouais.
Dont on va écouter un titre tout de suite. Groupe qui a, dans mon souvenir, fait quand même pas mal de disques et qui a un peu navigué autour de Pavement ou des choses comme ça.
Oui, il y avait... alors moi, je ne suis pas un grand spécialiste de tout ça, mais je pense pouvoir dire qu'un des mecs de Silver Jews était le cofondateur de Pavement ou quelque chose comme ça. Ou un mec de Pavement est venu jouer dans Silver Jews.
Je crois que c'est ça, ouais.
Mais voilà, ils partageaient Pavement, Silver Jews, cette espèce d'attitude très cool.
Nonchalance, ouais.
Très, très nonchalante. Et en même temps, je pense, un attachement véritable, sincère, aux racines de leur musique, aux racines de la musique américaine. Moi, en général, c'est quand même une des musiques qui me touche le plus quand elle est connectée aux racines, quand elle rend hommage à ce qui s'est fait avant. Et cette chanson-là, c'est un jeu avec ça. New Orleans.
Smoke. Well, you can't say that my soul has died away. No, you can't say that my soul has died away. Oh, well, there's trouble in the hall, and trouble up the stairs, and trouble. Song. Well, we're trapped inside the song, trapped inside the song, trapped inside the song, where the nights are so long. Trapped inside the song, trapped inside the song, trapped inside the song, where the nights are so long. Trapped inside a song. Thank you.
une fin anarchique. Un groupe qui aimait bien l'anarchie, peut-être qui aimait bien le bazar, on va dire.
Oui, je pense.
Silver Jews avec New Orleans, et tu me racontais, pendant que le morceau passait, comment il brodait autour dans les paroles, autour de celle d'une autre chanson.
Oui, House of the Rising Sun, voilà, There is a House in New Orleans, etc. Et donc, ils l'inscrivent dans la chanson, ils disent, there are tracks inside the song, il y a des pistes dans la chanson. Voilà. Mm. Donc, il y a cette volonté, je pense, hein, de leur part, de s'inscrire dans une grande histoire, quoi, dans une certaine tradition, et puis de la mettre un petit peu à mal avec leur sacré sens du bazar, quand même. Mm. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup ce morceau, et voilà, ça me fait penser à ce bon vieux Bernard Lenoir.
Ouais. Bah écoute, tu évoques Bernard Lenoir, tu as évoqué juste avant ton émission Eldorado. Est-ce que tu peux nous raconter comment c'est venu cette passion pour la radio et puis cette façon que tu as eu de choisir, de l'enregistrer de la façon dont tu le fais, c'est-à-dire à l'avance et puis en te nourrissant de... Enfin, je sais pas, on t'imagine en train de préparer ça avec des tas de disques, des tas de magazines, des tas de livres, parce que c'est ça qui est aussi agréable dans cette, je le disais en entrée, mais dans cette émission, c'est que tu redonnes voix à des textes qui ont tendance à parfois se perdre. On achète telle ou telle revue, les articles, enfin moi j'aime bien garder les revues, mais les revues sont aussi parfois jetées rapidement et oubliées. Donc tu fais revivre tout ça, comment ça se présente?
Alors oui, donc en fait Eldorado, ça fait 2 ans maintenant que je fais cette émission, et pour plusieurs raisons, mais alors déjà des raisons d'emploi du temps, ça m'était plus difficile qu'auparavant de venir faire mon émission en direct, parce qu'auparavant, ça fait quand même bientôt 12 ans, je pense, que je fais de la radio, et mes émissions auparavant étaient faites comme ça, en direct, moi, le micro, et puis à me débrouiller avec les potards, comme tu fais admirablement depuis tout à l'heure, avec cette précarité, mais aussi cette énergie qui s'en dégage, quoi. Et bon, après, bref, c'était plus très possible, et donc je me suis trouvé un peu dans l'obligation de la faire à la maison, et je me suis dit, alors on va essayer d'en tirer parti. Voilà, qu'est-ce qui est le point fort finalement, c'est de lécher les choses, de les parfaire un petit peu. Et donc j'ai vraiment pris le parti pris radical d'écrire les émissions.
Ouais, c'est ça. Ouais.
D'écrire les émissions et de rendre hommage à des écrits, parce qu'il y a eu Le Noir qui était très important pour moi, mais il y a eu aussi Les Inrecuptibles. Par ce qu'il disait, mais aussi par le soin qu'il mettait à mettre en page et en image leurs critiques, leurs chroniques et leurs interviews, qui étaient des interviews extrêmement longues, de leur amour du cinéma et de la musique, etc., etc. Et il y a des critiques qui, c'est vrai, hein, alors on pense aux grands critiques américains comme Lester Bangs, etc., etc., mais il y a aussi en France de très grands critiques, je trouve, des gens qui savent bien mettre en mots la musique et qui s'attachent encore une fois à la passer, à la transmettre. Mmh. Donc c'était aussi, voilà, il y a des choses que d'autres disent bien mieux que moi, et je ne vais pas paraphraser laborieusement ce qui a déjà été joliment écrit. Donc je préfère, dans ces cas-là, ouvrir les guillemets, citer le gars ou la fille, et puis fermer les guillemets.
Ouais, voilà. Ce que tu fais fréquemment.
Ouais, ce que je fais très très souvent.
C'est un plaisir.
Et du coup, tu as raison, il y a un vrai plaisir dans la préparation. Parce que je m'entoure de piles de disques, et puis de mes vieux bouquins, et puis de mes vieux magazines, et puis bien sûr d'Internet, hein, de mon petit ordi, et puis je fais farfouiller. Mais il y a cette quête un peu heuristique. Moi, quand je fais une émission, donc je choisis le morceau de départ, après je ne sais pas du tout où ça va m'emmener, et je découvre des choses. Et des fois, je passe des morceaux que je ne connaissais pas, hein, ou j'avais oublié, ou dont je ne soupçonnais même pas l'existence, alors que je me rends compte que c'est des trucs incontournables. Donc moi aussi, je suis le premier surpris des chemins que prennent les errances d'Eldorado,
ouais.
Et c'est un plaisir qui est aussi personnel, quoi.
Ouais,
ouais, bien sûr.
Bon, en tout cas, je suis ravi d'en évoquer ici la teneur de cette émission, parce que c'est ça que j'aime bien aussi, c'est l'errance que tu mets en scène, une errance qui est nourrie, qui est pas non plus totalement qui part pas n'importe où, quoi, qui a des références, qui a des points. Et c'est ça que j'aime bien aussi dans ton émission, c'est qu'il y a tu aimes bien trouver des lignes, des suites, des pierres angulaires, tu aimes bien dire ça parfois.
Oui, c'est vrai.
Voilà,
c'est vrai.
Des repères dans la musique, et c'est important aussi d'avoir ça pour pédagogiquement rendre aussi notre activité intéressante.
Oui, il y a cette espèce de passage obligé d'un morceau à l'autre. Voilà, on ne peut pas... il faut forcément qu'il y ait un lien, si souterrain soit-il, il faut qu'il y ait un lien, mais tout en gardant... Alors, je ne sais pas si ça existe en français, la sérendipité, mais les Anglais qui disent serendipity, en fait. Voilà, tu trouves un peu par hasard, quoi.
Ouais,
voilà.
Ouais.
Et et je pense que c'est aussi, moi je ne suis pas du tout un créateur, je ne suis pas du tout un musicien, mais je pense que beaucoup de musiciens trouvent parfois, voilà, par hasard, des mélodies qui vont trotter dans la tête de tas de gens pendant des décennies, quoi. Et voilà, moi je trouve que c'est chouette de s'en remettre au hasard, y compris dans une émission qui est ficelée de manière monomaniaque, comme peut l'être Eldorado parfois, quoi. Mais il y a aussi un grand vent hasardeux là-dedans.
L'histoire de Jesse James. Comment il vécu? Comment il est mort? Ça vous a plu, hein? Vous en demandez encore? Eh bien, écoutez l'histoire de Bonnie and Clyde. Alors voilà, Clyde a une petite amie. Elle est belle. Et son prénom c'est
Bonnie.
À eux deux, ils forment le gang Barrow. Leur nom
Bonnie Parker
et Clyde Barrow.
Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Moi, lorsque j'ai connu Clyde autrefois, c'était un gars loyal, honnête et droit.
Il faut croire que c'est la société qui m'a définitivement abîmé.
Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde.
Qu'est-ce qu'on n'a pas écrit sur elle et moi?
On prétend que nous tuons de sang-froid.
C'est pas drôle, mais on est bien obligé
de faire taire celui qui se met à gueuler. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde.
Chaque fois qu'un policeman se fait buter,
qu'un garage ou qu'une banque se fait braquer,
pour la police ça ne fait pas de mystère.
C'est signé
Clyde Barrow,
Bonnie Parker, Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde.
Maintenant, chaque fois qu'on essaie de se ranger,
de s'installer tranquille dans un meublé,
dans les trois jours, voilà le tac-tac-tac,
des mitraillettes qui reviennent à l'attaque. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde.
Un de ces quatre, nous tomberons ensemble. Je m'en fous, c'est pour Bonnie que je tremble.
Quelle importance qu'il me fasse la peau. Moi, Bonnie, je tremble pour Clyde Barrow. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde.
De toute façon, il ne pouvait plus s'en sortir.
La seule solution, c'était mourir.
Mais plus d'un les a suivis en enfer.
Quand sont morts Barrow et Bonnie Parker, Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde.
Écoute, je suis ravi qu'on passe comme ça d'un groupe obscur à un groupe ultra connu, un morceau ultra connu. C'est à l'image du laboratoire et c'est de plaisir aussi. Donc, Serge Gainsbourg, après les Silver Jews, on était en train de parler de Bernard Lenoir.
Ouais.
Et Gainsbourg, pourquoi ce choix ?
Alors en fait, ces deux morceaux-là, pareil, hein, quand je mettais dans ma besace les disques un à un, je repensais à un bouquin de Nick Hornby que j'aime beaucoup qui s'appelle 31 Songs, 31 chansons. Un très chouette bouquin, un tout petit bouquin voilà, que tout amoureux de musique devrait beaucoup aimer, pas cher en plus. Et donc je repensais à ce bouquin et je me rappelais dans la préface que Nick Hornby disait ceci à peu près. Je vais pas le citer, hein, même si j'avais quand même ramené le bouquin au cas où, mais je vais essayer de le dire. Il dit, voilà, quand vous entendez quelqu'un qui vous confie qu'il adore telle ou telle chanson parce que ça lui rappelle un souvenir très précis, eh ben ce mec n'aime, ou cette nana n'aime pas vraiment la musique. Parce que quand on aime une chanson, on l'écoute des centaines de fois et la répétition gomme justement ce souvenir
tout
précis.
Ouais.
Mais il module, Hornby, et dit, mais il y a des exceptions. Il y a des exceptions. Il cite, je crois me rappeler, Born to Run, de Bruce Springsteen, enfin un morceau de Born to Run, je crois que c'est Thunder Road, parce que sur ce morceau, il a dû avoir une aventure très, très particulière avec une jeune femme dans une chambre, etc. Donc ça, il dit, bon, ça je m'en rappelle quand même, quoi. Mais c'est une exception. Et donc, ces deux morceaux, parce que ce sont deux exceptions, voilà, j'avais envie de partager avec toi aussi des choses peut-être un peu plus personnelles hein, que se planquer systématiquement toutes les semaines derrière la musique. Et voilà, moi, ces deux morceaux qui me rappellent des choses très précises, ce sont les exceptions qu'aime bien confier aussi lui Nick Hornby. Alors les Phillies, ce morceau-là, même si je l'ai écouté des tas de fois avant,
Oui, j'ai annoncé les Silver Jews, mais c'était les Phillies juste avant. Oui, c'est ça.
Phillies, hein. C'est le dernier album des Phillies qu'on écoutait là, donc qui date de 2010. Alors, pourquoi donc, je l'ai réécouté des tas de fois après, mais ça me rappellera toujours ce morceau-là quand ma fille est née. Elle est née en 2010, en mai 2010. Elle a fait ses nuits bien après, bien après. Et je l'ai longtemps endormi sur ce morceau.
D'accord.
Voilà, sur les trois premiers morceaux du disque Here Before des Phillies, j'avais ma fille dans les bras. Elle était toute petite, quelques mois, puis quand même 6 ou 7 mois, hein, il faut bien le dire. Mais c'est là-dessus que je l'endormais, je la balançais comme ça dans mes bras sur ces trois morceaux. Et forcément, irrémédiablement, et jusqu'à la fin, je pense, dès que j'écouterai ce disque des Phillies, je penserai à ma fille. Et voilà, et c'est une jolie exception que celle-ci. Et puis Gainsbourg. Alors Gainsbourg, moi, j'étais, quand j'étais un adolescent, un grand amoureux de Serge Gainsbourg. Je le suis toujours aujourd'hui. Gainsbourg est mort, je crois, le 2 ou le 3 mars de 1991. Je crois que c'est le 2 mars 1991. Et le 2 mars 1991 était un samedi. Et le dimanche matin, donc le 3 mars, moi, j'étais jeune, j'avais 16 ans, je pense, hein, en 91, et je me réveille, et comme chaque fois, je me réveille, c'était un dimanche matin, plutôt tard, j'imagine, je mets la radio et j'entends Bonnie and Clyde. Et je dis à ma maman, mais c'est incroyable, tu vois, il y a Gainsbourg à la radio, je suis content, c'est chouette, parce que c'est vrai qu'on n'entendait quasiment jamais Gainsbourg à la radio à cette époque-là. En tout cas, j'en ai pas souvenir. Et je lui dis, c'est formidable, il y a Gainsbourg à la radio, et ma mère n'a pas osé me dire que Gainsbourg était mort, parce qu'elle savait, aussi étrange que ça puisse paraître avec le recul, que ça allait me bouleverser.
Ouais, ouais.
Et elle ne me l'a pas vraiment dit, et elle m'a laissé écouter Bonnie and Clyde jusqu'au bout. Et ensuite, j'ai entendu donc l'animateur radio, c'était sur France Inter, dire que voilà, Gainsbourg était mort dans son petit hôtel particulier, voilà, à Paris, dans la nuit, le soir qui précédait, je ne sais plus. Voilà. Et donc, à chaque fois que j'écoute Bonnie and Clyde, j'ai 16 ans, à chaque fois que j'écoute Bonnie and Clyde, je suis triste. Et c'est très étonnant pour une musique comme ça qui est plutôt facétieuse. Voilà. Et donc, j'avais envie de passer deux morceaux qui me ramènent
des choses. Parce que
c'est rien que pour tordre le cou aux théories fumeuses de M. Nick Hornby, que
oui,
j'adore.
En même temps, voilà. Il dit que les exceptions sont possibles. Et effectivement, on se dit tous qu'on en a.
Absolument.
Alors, il va falloir que tu me fournisses la musique qui va arriver, que tu la présentes.
Alors, on avait parlé de Vic Chestnut.
D'accord, ok. Et donc, Vic Chestnut, tu as écrit, ça va nous permettre peut-être d'évoquer tout ce que tu écris, parce que tu écris, et notamment pour un magazine qui s'appelle Équilibre Fragile.
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
J'y pense parce que tu as écrit une sorte de lettres,
de lettres à Vic Chestnut, qui est un des musiciens que j'aime énormément, que j'avais vu en concert peut-être en 2008 à Rouen, dans une très vieille une vieille église en fait, hein, qui était transformée en salle de concert, qui était déjà une salle essoufflée, qui donnait voilà, lieu à ses quelques dernières dates. Maintenant, il n'y a plus rien. Ça s'appelle la salle Sainte-Croix des Pelletiers. Vic Chestnut était là, dans son fauteuil roulant, avec sa vieille guitare sèche, entouré de quelques musiciens de Hey Silverman Zion. Et puis, l'électricité qui entourait tendrement la sécheresse et la nudité acoustique de Vic. Sa beauté sur scène, quoi qu'on en dise. Voilà, il y avait quelque chose d'extrêmement beau qui s'en dégageait. Sa voix qui est incomparable. Et puis la grandeur de ses chansons.
Bon, on peut le dire, c'était quelqu'un qui était diminué par un handicap.
Oui, absolument. Il était handicapé des deux jambes, donc il était sur un fauteuil, mais aussi ses motricités des deux bras étaient diminuées. Donc il avait un jeu de guitare absolument heurté. Mais voilà, ça faisait aussi la singularité et la beauté de sa musique. Donc on peut passer cette chanson que j'appelais de mes voeux et qui s'appelle Betty Landley, qui date, je crois, de 1995. Enfin, on est dans les années 90. C'est le quatrième album que Vic Chestnut réalise.
Est-ce que c'est celui qui est produit par des membres des REM aussi encore ?
Alors en fait, c'est ses deux premiers albums qui sont produits par Michael Stipe lui-même, donc le chanteur des REM, parce que c'est Stipe qui découvre Chestnut alors que celui-ci se produit seul dans les petits bars de Assens en Géorgie, la ville donc du groupe R.E.M.
Ah, oui,
et Stipe découvre ce type qui chante ses chansons désespérées et tombe amoureux du personnage et de la musique et propose de le produire. Et les deux premiers disques de Chestnut qui sont très dépouillés, hein, une guitare, une voix, un peu de synthétiseur ici et là, joué par Mr. Stipe lui-même. Mm-hmm. Et puis hop, c'est dans la boîte, quoi.
C'est tiré d'album. Est-ce que l'acteur est heureux?
Charleston shoe, looking inside his hothouse eyes. See his budding youth, free of hope, free of the past. Thank you, God, and nothing. I'm free at last, free of hope, free of the past. Thank you, God, and nothing.
Bon, j'ai une petite erreur dans la programmation du morceau, tu m'excuseras. C'était pas celui que tu as voulu passer, c'était Betty Lonnie, c'était Free of Hope de Vic Chestnut.
C'était très bien aussi, Free of Hope.
Bon.
Finalement, c'est mieux comme ça.
T'es gentil. Alors, parlons peut-être, puisque le temps passe et qu'il est déjà 21h et qu'il nous reste une petite demi-heure pour évoquer toutes tes activités. Il y en a une qui est intéressante, celle de rédacteur en chef de ce magazine, on va dire, Rouennais, Équilibre Fragile.
Oui, alors le rédacteur en chef, c'est mon camarade Thierry. Moi, je suis son
bras droit.
Son bras droit, voilà, on va dire ça, sur cette aventure. Donc, qui est un magazine artisanal, do it yourself.
Oui.
Voilà.
Volontairement tiré à 200 exemplaires, c'est-à-dire peu.
Tiré à peu d'exemplaires, oui, en dehors des circuits de diffusion traditionnels.
Il faut le commander, oui.
Il faut le commander sur Internet. Si on tape Équilibre Fragile dans Google, ça doit quand même sortir en haut de la pile. Donc Équilibre Fragile, voilà, c'est avant tout, je pense, une déclaration d'amour à la presse papier, aux objets, à la trace qui peut rester.
Au noir et blanc
et au travail bien fait, avec amour et en tout désintérêt, à part celui de partager ce qui nous anime et ce qui nous passionne. Donc on n'est pas seul du tout avec Thierry. Il y a plein de gens qui gravitent autour d'Équilibre Fragile, qui donnent des coups de patte, voilà, qui écrivent, qui corrigent, qui photographient, qui mettent en page. Voilà, donc c'est aussi un lieu de rencontre, voilà, entre plein de gens passionnés. Et puis il y a des lecteurs. Et ça, on a été très touchés de voir que finalement, nos magazines, c'est vrai que le tirage n'est pas non plus démentiel, mais ils partent, quoi, ils se vendent et on a des beaux retours.
Donc un beau numéro 1 sur Dominica, ouais. un numéro 2 sur Troy von Balthazar. Enfin, je parle simplement de la couverture et de, ouais, évidemment, ouais. Il y a beaucoup de choses dedans. Et bon, voilà, par exemple, un interview de Peter Walsh de The Apartments dans le dernier numéro. Ouais. Et dans le prochain... tu as conduit des choses, des interviews aussi, ou tu as plutôt écrit des textes de fond sur...
Ouais, dans le prochain, en fait, j'ai écrit deux textes. Un texte sur Elliot Smith.
Voilà.
Oui. Donc un portrait d'Elliot Smith, parce que c'est lui qui va faire la couverture. Le photographe des Inrocuptibles, qui est aussi le cofondateur des Inroc, Renaud Montfourny, nous a donné une très belle interview pour ce numéro et nous a offert aussi des photographies qu'on peut publier, dont certaines photographies inédites d'Elliot Smith, donc qui vont paraître pour la première fois.
Ah ouais.
C'est un beau cadeau que nous fait ce grand, grand monsieur qui est Renaud Montfourny, mais comme tous les grands, grands messieurs, il est très humble et toujours conduit après ces 30 années uniquement par la passion et le désir du compagnonnage et du partage. C'est vraiment un type formidable. Donc voilà, on se retrouve avec dans les pattes des photos d'Elliot Smith. Donc voilà, je vais écrire un portrait d'Elliot Smith parce que le numéro va quand même se concentrer sur les concerts du Color Bars Experience, donc cette revisitation du disque Figure 8 de Elliot Smith par trois grandes voix de la musique actuelle. Ken Stringfellow des Posies, Troy Van Balthazar de Shockboard, et le troisième, je vais forcément l'oublier, mais tu vas toi peut-être me le rappeler.
C'est pas... ce groupe américain là, à guitare, comment il s'appelle? Bon, écoute, on va...
Ça restera le trou de ce laboratoire.
Voilà.
Mais voilà, donc... Donc c'est vraiment centré autour du Color Bars Experience, qui est très lié à l'émission Label Pop de Vincent Théval, qui passe sur France Musique. Vincent Théval nous fait aussi le plaisir d'écrire un texte pour ce numéro d'Équilibre Fragile. Donc il y a quand même des grandes pointures, à notre avis, hein, des musiques que nous aimons et défendons, qui s'associent à cette démarche. Il y a eu Dominica au début, et puis maintenant, voilà, il y a Monfourni et Teval, et ça, c'est des beaux cadeaux qu'ils nous font, ces deux messieurs-là. Et donc voilà, pour répondre à ta question après maintes circonvolutions, j'ai écrit un portrait de Elliott Smith et un autre de Johnny Cash. Mmh. Voilà, sur les 10 dernières années de sa carrière et de sa vie, puisque les deux coïncident, sur les crépuscules, le crépuscule de Johnny, ces 10 dernières années pour American Recordings.
D'accord.
Où il revisitait à la fois des titres qu'il avait déjà interprétés des décennies auparavant, et où il interprétait pour la première fois des morceaux qui étaient a priori étrangers de son univers. Voilà, parce qu'il y a aussi une focale qui est mise sur cet équilibre fragile, sur la réinterprétation, les reprises, la revisitation d'œuvres par d'autres créées.
C'est vrai. Et donc, on va écouter tout de suite un morceau d'Elliott Smith.
Ouais.
Est-ce que vous évoquez ce documentaire qui va paraître sur lui, sur les dernières années de sa vie ?
Je ne pense pas.
Non, pas.
Je ne pense pas qu'on l'évoque. Je pense que quand on a commencé à réfléchir à tout ça, on n'avait pas forcément en tête l'existence de documentaires.
D'accord.
Non, on va, en fait,
ça va bien tomber quand même.
Bah ça, oui, ça va bien tomber. Ouais. C'est d'autant plus pertinent. Mmh. C'était vraiment le Color Bars Experience, quoi. Ces concerts menés par ces trois chanteurs. Le troisième, c'est Jason Little de Granddaddy.
C'est ça. Voilà.
Granddaddy. Pareil, il faut quand même être une bonne quiche. Je suis vraiment confus.
C'est pas grave. On écoute Elliott Smith dans justement dans une réinterprétation.
Et ouais, voilà. De Big Star, un groupe que j'adore.
Un morceau qu'il aimait beaucoup jouer en concert.
Ouais. Et qui là, il a enregistré tout seul dans une chambre d'hôtel.
Ouais.
Sortine.
La fragilité d'Elliott Smith dans le laboratoire.
Won't you let me walk you home from school? Won't you let me meet you at the pool? Maybe Friday I can get tickets for the dance, and I'll take you. Tell your dad, get off my back. Tell him what we said about painting it black. Rock and roll is here to stay. We'll come inside, well, it's okay. And I'll shake.
Réinterprétation de Starting the Big Star par Elliott Smith sur ce beau disque paru après sa mort, New Moon. Écoute, Pierre, on avait plein de choses à se dire pendant cette heure et demie, notamment tout ce qui concerne chez toi le jazz Écoute, on va peut-être se donner rendez-vous une autre fois pour en parler, parce que j'aimerais bien qu'on évoque un livre que tu as écrit, qui va paraître bientôt, ouais, sur Karen Dalton. Alors, est-ce que tu peux... Bon, évidemment, Karen Dalton, on voit la connexion avec les errances en terre folk. Une dame qui t'a marqué, qui a changé des choses certainement dans ta perception de la musique. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots?
Oui, alors Karen Dalton, moi je l'ai découverte, Karen Dalton, il n'y a pas si longtemps que ça, et complètement par hasard.
Ouais.
En farfouillant sur YouTube, alors pas complètement par hasard, ça c'est pas vrai, parce que j'avais lu un article de Stéphane Deschamps, qui est un type que j'aime énormément, qui est un critique des Inrecuptibles, et il avait confié son admiration et son amour pour le premier album de Karen Dalton. Et donc forcément, j'ai été farfouillé, j'ai été écouté, j'ai été bouleversé par cette musique, par la voix de cette femme, Karen Dalton. Et puis je suis tombé sur les seules 8 minutes d'images qui existent de Karen Dalton, qui ont été très curieusement capté par la télévision française, qui s'appelait l'ORTF à l'époque, puisqu'à ce moment-là, on est en 1970. Et l'ORTF donc déboule là où vit Karen à ce moment-là, donc dans les montagnes du Colorado, dans les petits villages qui étaient habités par les hippies. Et ils s'emparaient en fait des anciens villages de chercheurs d'or. Ils réinvestissaient les petites cabanes comme ça. Et voilà, donc Karen vivait là à l'époque. Et donc je découvre cette vidéo, elle réinterprète un vieux blues qui s'appelle Jumped Up the Rabbit, qui est absolument... on ne peut pas le dater, quoi. On ne sait pas de quand ça remonte. Enfin, on est dans la folk, quoi. Et Karen joue ça. Moi, là, et c'est bête de dire ça. Hein, et c'est d'autant plus bête que c'est, je crois, la seule fois où ça m'est arrivé. J'ai pleuré en découvrant cette vidéo-là. Voilà, il y a quelque chose qui s'est passé d'incroyable, parce qu'elle, voilà, elle avait ouvert quelque chose en moi qui ne demandait qu'à s'ouvrir. Hein. Et donc après, forcément, j'ai été farfouillé, je me suis passionné pour cette interprète, je me suis rendu compte qu'elle n'avait édité de son vivant que 2 disques, que sa vie avait été chaotique et bien, par bien des endroits très douloureuses, et qu'il en restait cependant une œuvre aussi ténue soit-elle, hein, formidable, très belle, intègre et avec une descendance très forte. Nick Cave s'en réclame, Cat Power s'en réclame, John Newsom s'en réclame, en France, Moriarty s'en réclame. Des tas de gens se réclament de Karen.
Et puis elle a, dès le départ, côtoyé des gens qui ont aussi créé des œuvres immenses.
Absolument. Dylan, page 12, Chronicles, volume 1 de son autobiographie, Dylan dit « Quand j'arrive à Greenwich Village, il y a une femme qui éclate tout, c'est Karen Dalton, j'ai une admiration incroyable pour elle. » Et son deuxième concert, Dylan arrive en janvier 61 à Greenwich Village, ouais, fameux hiver où il neigeait, il faisait un froid de canard, où il dormait dans les bars. Dylan arrive en janvier 61 à Greenwich Village, il est inconnu, il n'a même pas 20 ans.
Ouais.
Et il y a une photo qui témoigne d'un concert donné par Karen Dalton, à sa gauche, Freddie Neil, à sa droite, Bob Dylan qui fait l'harmonica, derrière la grande Karen Dalton, qui était la reine de la soirée à ce moment-là, et la reine de Greenwich Village, c'était au Café Wa. Donc voilà, Karen Dalton, c'est un personnage très important, mais elle a choisi de tourner le dos à l'industrie de la musique, à tourner le dos à la folk music quand celle-ci s'est transformée en folk pop, quand celle-ci a un peu revêti les atours de l'industrie musicale. Et voilà, donc elle a vraiment, puis il y a aussi une existence un peu chaotique qui a non plus pas aidé pour qu'elle puisse
une forme de timidité peut-être
trouver
aussi
le succès, une ouais, forme de sauvagerie. Parce qu'elle n'était pas très timide, je pense qu'elle avait une estime tout à fait exacte de son talent, mais il y avait un malaise, quoi, quelque chose, une fêlure. Et donc voilà, j'ai commencé d'écrire ce livre comme malgré moi, j'ai commencé à recouper les pistes, et puis voilà, et puis il est né, et puis il va paraître, et ça c'est chouette.
Il va paraître en mars, c'est ça ?
Il va paraître en mars, donc dans 3 semaines, aux éditions du Camion Blanc.
Écoute, il faudra absolument que tu reviennes en parler, soit ici, soit dans les émissions de Principe Actif.
Ben avec
on
plaisir.
On lui fera volontiers un écho, on écoute tout de suite cette voix, parce que c'est la voix aussi qui saisit chez Karen Dalton, de Karen Dalton sur son premier album.
My man went away, I man went away. I said I'd miss him every night and day. Then I began to look around. Wish I could show you what I found. Sweet substitute. Sweet substitute. He tells me that he's mine, all mine. Every time I tell him, you know love is blind. He's got such loving ways. Got my head in a daze. My new recruit is mighty sweet and cute. I'm crazy about my substitute.
If I listened long enough to you, I'd find a way to believe that it's all true. Knowing that you lie straight faced while I cry, still I'd look to find a reason to believe. Someone like you makes it hard to live without somebody else. Someone like you makes it easy to give. Never think of myself. If I gave you time to change my mind, I'd find a way to leave the past behind. Knowing that you lied straight faced while I cried, still I'd look to find a reason to believe. If I listened long enough to you, I'd find a way to believe it's all true. Knowing that you lie straight faced while I cry, still I'd look to find a reason to believe.
Bon, on a choisi d'enchaîner avec Tim Hardin, qui est un des artistes que j'aime beaucoup dans ces années-là, dans le folk, et qui a côtoyé. Moi, je l'ai appris après qu'ils s'étaient côtoyés dès le départ avec Karen Dalton.
Bah, toujours sur cette fameuse scène de Greenwich Village, quoi, quand le renouveau folk émerge. Hein, y a Freddie Neil, Tim Hardin et Karen Dalton, cette espèce de trio. Inséparables, qui, et tous les trois en fait sont pas très adaptés à la vie trépidante new-yorkaise, et tous les trois se taillent.
On s'exilait, ouais.
Assez vite, Freddie Neil en Floride, il va passer tout le reste de sa vie entouré de dauphins, et puis les deux autres, Hardin et Karen, plutôt vers Woodstock. Voilà. Tout d'abord dans le Colorado, puis vers Woodstock. Quand Karen enregistre son deuxième album, elle habite chez Tim Hardin dans son manoir de Woodstock. Oui, et donc Karen puis Tim, parce que la fraternité, parce que la beauté magistrale de la musique folk dans ces années 60 aux États-Unis, parce qu'aussi lit les deux un monsieur qui s'appelle Dan Hankin, un guitariste qui joue sur le troisième album de Tim, qui joue sur les deux albums de Karen Dalton et qui a été pour moi un des témoins très importants pour l'écriture de ce livre sur Karen. Il a réussi à éclaircir des zones d'ombre, il a réussi à clarifier pas mal de choses, il a été formidable. C'est un monsieur qui a peut-être plus de 70 ans maintenant, on ne s'est pas vu, on s'est seulement écrit. Et beaucoup d'Américains comme ça se sont mobilisés pour faire ressurgir Karen des limbes et m'aider à très modestement à écrire ce bouquin qui s'appelle Karen Dalton, donc je l'ai sous-titré Le souvenir des montagnes, parce que en fait quand j'ai commencé de l'écrire, je suis très vite tombé sur les poèmes de Karen. Elle n'a jamais écrit de chansons elle-même, elle était dans la grande tradition folk une interprète de chansons qui lui préexistait, mais elle écrivait des poèmes et ces poèmes elle ne les a jamais partagés de son vivant. Ils ont été retrouvés après sa mort, dans une petite caisse. Le legs de Karen, après sa mort, était très modeste. Elle est morte, non pas dans la pauvreté, ni la misère, mais très modestement. Elle avait 2-3 caisses qu'elle a léguées à Peter Walker, un guitariste que j'ai également rencontré, qui a été son légataire. Et dedans, il y avait des poèmes. Et ces poèmes, on les fait paraître pour la première fois en France, traduits. Dans
par
ce
Mélanie
bouquin,
Leblanc, oui.
Avec Mélanie Leblanc, oui. Donc une poète de la région, que j'ai rencontrée grâce à Karen Dalton, que je ne connaissais pas. Mais voilà.
Est-ce que ce sont des... Parce que moi, j'ai cru voir ces poèmes en reproduction, en photographie, et j'ai remarqué qu'il y avait quand même des accords, enfin des, ouais. des lettres sur... Est-ce qu'elles avaient pris la forme de chanson chez elles ou...
Eh bien, on ne le sait pas.
Ouais.
Elle ne les a jamais interprétées. En effet, certains de ces poèmes, dans ces petits carnets à l'écriture hésitante, il y a des accords comme ça qui sont notés ici et là sur les vers, notamment ce poème « Remembering Mountains », le souvenir des montagnes. Et donc oui, je pense que Karen les jouait pour elle-même en s'accompagnant à la guitare. Avait peut-être, mais à la fin de sa vie, de toute façon, elle ne jouait plus de guitare. Elle ne chantait plus, elle ne se produisait plus en concert, elle était trop malade. Je pense que c'était des chansons qu'elle se jouait dans sa tête, avant tout. Mais en effet, il y avait des accords. Et tu fais bien de le souligner parce qu'il y a un disque qui est sorti l'an passé, qui s'appelle également Remembering Mountains, où par un formidable petit label américain qui s'appelle Tompkins Square Records. Et ils ont invité 10 chanteuses, dont Josephine Foster, dont Sharon Van Etten, donc quand même, dont Lucinda Williams, à s'emparer des textes, des poèmes de Karen et de les mettre en musique et de les interpréter.
Ouais,
Sharon Van Etten reprend Remembering Mountains en s'appuyant sur ces quelques fragiles accords griffonnés par Karen.
D'accord. Écoute, donc on va se donner rendez-vous pour cette publication. On renvoie les auditeurs au disque de Karen Dalton et à celui dont on vient de parler, Remembering Mountains, qui reprend de manière moderne les chansons de Karen Dalton. Est-ce que tu veux qu'on termine par quelque chose en particulier ? Tu avais amené beaucoup de choses pour aujourd'hui. Et avant qu'on passe la main à la Factory qui arrive et qui va nous parler encore une fois du Gun Club ce soir, est-ce que tu veux qu'on termine avec quelque chose ? On a décidé presque tacitement qu'on parlerait du jazz une autre fois.
Absolument.
Et de ses liens avec la musique en général.
On va finir avec un trait d'union qui est Robert Wyatt.
D'accord.
Et je vais te le passer.
Oui.
Donc parce que c'est la première piste.
D'accord.
Voilà.
J'ai vu que tu avais prévenu les gens d'une émission demain soir sur France Culture sur
Robert Wyatt.
Sur Robert Wyatt.
Ouais.
Bon, alors, qui est, en deux mots, quelle est l'importance pour toi de ce musicien ?
Ah ben, Rock Bottom, le plus beau disque jamais enregistré. Mais en toute objectivité, non, plus
parce
véritablement.
Que pour moi, ça prend vraiment sens que tu parles de Robert Wyatt parce que voilà, c'est vraiment un lien entre le rock et le jazz, quoi, complètement.
Ouais,
s'il y a quelqu'un
qui
fusionne les deux, c'est bien lui.
Parce que musique absolument libre, libérée de tous les formats, libérée de toutes les contraintes, parce que aussi, de manière dramatique, il a incarné ça dans sa chair. Wyatt, c'est un batteur, il tombe d'une fenêtre du 4e étage, il devient paraplégique, il ne peut plus faire de batterie, donc la musique se joue dans sa tête, véritablement. Son premier véritable album solo, c'est le deuxième, mais premier véritable album solo qui est Rock Bottom, qui est vraiment, et on va revenir à cette pierre angulaire, voilà, mais qui est une des pierres angulaires du rock, quoi. Rock Bottom naît sur un lit d'hôpital.
Oui.
Et pour moi, ça a été un choc esthétique immense, ce Rock Bottom de Robert Wyatt. Et là encore, c'est quelqu'un qui arrive à convoquer autour de lui des sommités. C'est produit par Nick Mason du Floyd. Il y a plein de gens autour de lui qui se penchent sur Wyatt pour donner naissance à la musique qui se joue dans sa tête. Et c'est absolument fantastique. Et j'ai ramené, pour terminer cette émission du laboratoire, un titre que j'adore, celui que je préfère de Rock Bottom. Donc peut-être le titre que je préfère au monde, Ali Fib. Voilà, de Robert Wyatt, mais pas dans la version de Rock Bottom, dans une version totalement dépouillée, il est tout seul au piano. Il avait enregistré ça, je crois, peut-être me trompe, mais je crois pour la télévision française.
Ah oui, d'accord.
Et il est tout seul. Il y a une vidéo qui correspond à cet enregistrement, qu'on peut voir sur YouTube assez facilement. Fallait voir ça. Hein. Il est seul au piano. Il y a des ballons qui zonent comme ça. Ici, il a des petits ballons d'enfants de toutes les couleurs. Mm-hmm. Et il y a Wyatt qui chante cette comptine intemporelle. Voilà, bah, c'est écoute... un type qui chantait des comptines même quand on est grand et qu'on n'a pas honte d'écouter. Quoi. Moi, Ali Fib, c'est une déclaration d'amour à sa femme.
Merci en tout cas, on va écouter ça religieusement parce que moi je ne connais pas cette version-là, je ne connais que les versions enchaînées de l'album Rock Bottom et
Sous-marine.
Et Sous-marine, oui. Donc on va finir avec ça, je te remercie pour tous ces mots, toutes ces musiques. Et tu es le bienvenu pour évidemment une nouvelle du laboratoire consacrée au jazz.
C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Salut.
Salut.
city, sleep streets at night, down to Piccadilly, where the lights are shining bright.